Voilà. Donc aujourd'hui, comme ça a été annoncé, alors pour ceux qui l'ont vu, il y a une autre partie de l'enseignement qui a été mise sur la page Facebook qui concerne le don de parler en langue. Donc comme je disais au début, si vous n'avez pas le temps de vous asseoir 50 minutes pour l'écouter, même si c'est bien, hein, vous pouvez aussi faire ça, mais vous pouvez aussi l'écouter en faisant la vaisselle, en faisant le ménage ou autre. Et donc cette partie clôture la partie sur les dons spirituels. Et nous avions vu la dernière fois, en dimanche, nous avions vu la puissance du Saint-Esprit. Et comme annoncé, aujourd'hui, nous allons parler du thème « Qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit? » Qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit? Et pour ça, nous allons tout simplement relire encore une fois le texte que nous avons lu au début de ce culte, où il est écrit Éphésiens 5, 18 à 20, Éphésiens 5, 18 à 20, où il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. » Un verset important, un verset incontournable en ce qui concerne la plénitude du Saint-Esprit. Il nous est dit de ne pas nous enivrer de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Chaque enfant de Dieu, nous l'avons vu, a reçu le Saint-Esprit à la conversion. Il n'y a pas de chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas de chrétien qui doit attendre le Saint-Esprit. Tous les chrétiens sont habités par le Saint-Esprit parce que c'est cet Esprit qui nous permet de nous reconnaître comme enfants de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas nous reconnaître comme enfants de Dieu. Mais si chaque chrétien a reçu le Saint-Esprit à la conversion, qu'en est-il de la plénitude? Qu'est-ce que c'est que la plénitude du Saint-Esprit? D'emblée, on comprend que la plénitude de l'Esprit, ce n'est pas quelque chose d'automatique, puisque c'est une exhortation. Soyez remplis de l'Esprit. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on a automatiquement à la conversion. On n'est pas automatiquement rempli de l'Esprit. C'est quelque chose, la plénitude de l'Esprit, qui dépend de notre croissance spirituelle, qui dépend de notre vie spirituelle, qui dépend de notre consécration à Christ. Alors que le Saint-Esprit, nous le recevons de façon automatique, par la foi, sans avoir rien à faire, la plénitude de l'Esprit, elle nous implique, elle nous demande quelque chose, elle nous demande de la croissance spirituelle, elle nous demande une certaine vie spirituelle, elle nous demande une certaine consécration à Christ. Tous les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit et ne doivent pas rechercher à le recevoir, mais tous les chrétiens sont appelés à rechercher la plénitude de l'Esprit. Tous les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit, ils ne doivent pas chercher à l'avoir, mais tous les chrétiens doivent rechercher la plénitude de l'Esprit. En d'autres termes, tous les chrétiens doivent rechercher à être remplis de l'Esprit. Alors l'apôtre, pour nous éclairer, utilise une image qu'il oppose le fait d'être rempli de vin au fait d'être rempli de l'Esprit. Et c'est une distinction qui va nous permettre de comprendre ce que c'est finalement que d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, afin que je ne me fasse pas tuer avant la fin de ce culte, je précise que l'apôtre parle du fait d'être enivré de vin, c'est-à-dire d'être saoul. Il ne parle pas du fait de boire du vin. Ça va? Je le dis parce que sinon je n'arriverai pas à la fin ici, je ne sortirai pas vivant. Vous retrouverez des morceaux de moi un peu partout dans l'église, mon bras à l'école du dimanche, ma main dans la cuisine, parce qu'on me découpera en morceaux. Non, je plaisante. Mais tout ça pour dire que il faut faire la différence, c'est important, parce que sinon on ne va pas se comprendre. Le texte parle d'être rempli de vin. Donc ne vous enivrez pas, ne soyez pas saoul de vin, c'est ce qu'il dit. Il oppose donc le fait d'être rempli de vin et le fait d'être rempli de l'esprit. Lorsque quelqu'un est rempli de vin, rempli d'alcool, on va dire qu'il est sous l'influence de l'alcool. Et on peut prendre comme exemple tout simplement la conduite sous influence. C'est comme ça qu'on parle. Lorsque quelqu'un conduit en ayant bu, on dit qu'il conduit sous influence, c'est-à-dire qu'il conduit en étant influencé par l'alcool. L'alcool est à l'origine de comment il va se comporter. On sait qu'il y a des gens qui ont l'alcool rieur et qui vont beaucoup rigoler. On sait qu'il y a des gens qui ont l'alcool méchant et qui vont devenir très méchants. On sait qu'il y a des gens, enfin la plupart des gens, quand ils conduisent et ils sont sous l'influence de l'alcool, ils vont perdre leurs réflexes, ils vont perdre leur capacité à bien réagir. Et donc, on dit la personne, elle est sous l'influence de l'alcool. Elle est en train d'agir en ayant l'alcool en elle qui l'a fait agir d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle être sous l'influence de l'alcool. La personne agit en étant influencée par l'alcool qu'il y a dans son corps. On dit que la personne est pleine de vin, elle est remplie de vin, elle est saoule, elle est influencée par l'alcool. On utilise aussi une autre expression dans les infractions pénales, on dit que la personne était sous l'empire de l'état alcoolique. Donc, être sous l'empire de l'état alcoolique, ça veut dire être sous la domination de l'alcool, être dominé par l'alcool, être complètement influencé par... Donc, ne vous enivrez pas de vin, ne soyez pas rempli de vin, ne soyez pas influencé par le vin, ne soyez pas sous la direction du vin, parce que c'est ça, être saoul. Être saoul, c'est être sous la domination du vin, parce qu'on perd le contrôle. Voilà. Quand on est en état normal, on est en domination. Hein, donc David Collet, là, il est en domination. Là. Il est assis sur... Vous devriez le voir, il est assis avec une prestance. Avec une force. Là, il est en domination, parce qu'il se domine. Mais une personne qui est sous l'influence du vin, il n'est plus en domination. Il est dominé par le vin. C'est le vin qui l'influence, et ce n'est plus lui qui est maître de ses faits et gestes. On comprend donc qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de l'Esprit, c'est être sous l'influence du Saint-Esprit. C'est être sous la direction du Saint-Esprit. C'est agir en étant mu, en étant dirigé par le Saint-Esprit en nous. C'est agir en étant sous l'influence de la direction du Saint-Esprit. C'est agir sous la conduite du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être dans un état où le Saint-Esprit influence et conduit ce que nous faisons. De la même façon que celui qui est sous l'emprise du vin ou de l'alcool va être dirigé par l'alcool, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il va être conduit par le Saint-Esprit, dirigé, mu, influencé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Ça nous montre donc que, évidemment, tout chrétien a reçu le Saint-Esprit. Tout chrétien a le Saint-Esprit en lui. Mais est-ce que tout chrétien est dirigé par le Saint-Esprit? Est-ce que tout chrétien est en tout temps conduit, influencé par le Saint-Esprit? Clairement, non. La plénitude de l'Esprit, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Être conduit, être rempli, comme on dit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit prend toute la place en nous. Il prend toute la place pour nous diriger, pour nous conduire. Nous sommes sous son influence. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est quelque chose qui, là, est lié à notre consécration à Christ, à notre vie spirituelle, à notre obéissance à Christ, à notre vie devant Dieu. Nous sommes tous appelés à chercher à être remplis de l'Esprit. Pas simplement l'Esprit qui habite en nous. Parce que c'est ça le danger. C'est qu'on peut être un chrétien bien gentil, comme vous êtes tous, derrière vos écrans, dans vos canapés, pendant que nous, nous caillons. Non. J'exagère parce qu'aujourd'hui, ça va encore. Mais j'ai échappé belle, moi. Comme je disais à Jean-Pierre, je calcule bien. Je sais bien que je ne dois pas être là. Soit. Mais donc, tout chrétien gentil que vous êtes, vous pouvez être là, dire « Ah, mais moi, j'ai le Saint-Esprit. À la conversion, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je n'ai rien à faire d'autre. Je peux m'asseoir là. » Ce serait trop facile. Parce que le Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Et comme il ne nous quitte jamais, il y a des moments où il est en nous, il peut être en nous, mais ne pas nous influencer. Il peut être en nous et que nous fassions taire sa voix. Il peut être en nous sans que nous nous laissions conduire par lui. Il peut être en nous sans que nous lui laissions prendre toute la place et nous diriger, nous conduire. Et donc la plénitude de l'Esprit, c'est donc cet état dans lequel une personne va être sous l'influence, sous la pleine influence du Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit, c'est l'état d'une personne qui est sous la pleine influence du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a une liberté d'agir en lui. Le Saint-Esprit ne l'habite pas seulement, mais le Saint-Esprit l'influence. Il conduit sa vie, il dirige ce qu'il fait. La plénitude de l'Esprit, c'est l'état de pleine influence du Saint-Esprit sur nous. Quand le Saint-Esprit n'est pas seulement en train de nous habiter, mais qu'il est en train de nous conduire, de nous diriger dans ce que nous faisons. On comprend donc, et on le rappelle, que le baptême de l'Esprit... Alors, c'est peut-être un peu long aujourd'hui de revenir là-dessus, mais on avait expliqué au début que le baptême de l'Esprit, dans 1 Corinthiens 12, c'est le fait d'être incorporé au corps du Christ. Donc, dans la terminologie biblique, ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit, c'est le fait d'être incorporé au corps du Christ, et ça a lieu à la conversion. Maintenant, dans le monde chrétien, d'autres utilisent l'expression baptême de l'Esprit pour parler de la plénitude du Saint-Esprit, ce qui fait qu'on ne se comprend pas toujours, mais vous irez revoir les enseignements passés où il y avait un commentaire du théologien Grudem qui explique un petit peu pourquoi souvent on ne se comprend pas sur le sujet, je ne reviens pas là-dessus. Mais donc le baptême de l'Esprit, on le vit à la conversion et on le vit tous. Alors que la plénitude de l'Esprit, elle dépend de notre consécration. Nous ne l'avons pas tous, nous sommes tous appelés à chercher la plénitude de l'Esprit. Alors que le baptême de l'Esprit n'a lieu qu'une seule fois à la conversion, la plénitude de l'Esprit est une expérience que nous avons à rechercher et qui peut avoir lieu plusieurs fois dans notre vie et qui peut avoir lieu sur le long terme. Et on verra un petit peu ce que ça implique. Une citation de Tozer qui explique que la plénitude de l'Esprit, c'est la vie normale du chrétien. Un chrétien est appelé à être rempli de l'Esprit. Voici ce que Tozer dit. L'Église ne peut avoir la lumière que dans la mesure où elle est pleine de l'Esprit. L'Église doit être pleine de l'Esprit, pas seulement habitée par l'Esprit. Et elle ne peut être pleine de l'Esprit, l'Église, que si les membres qui la composent le sont individuellement. De plus, personne ne peut être rempli s'il n'est convaincu que cela fait partie du plan total de la rédemption, que ce n'est rien d'ajouté, de supplémentaire, rien d'étranger ou de bizarre, mais une action normale et spirituelle de Dieu, dont la base est la source, et la source sont l'œuvre expiatoire du Christ. Ce que dit Tozer, c'est que l'Église en tant que corps doit être remplie de l'Esprit, mais pour que l'Église en tant que corps soit remplie de l'Esprit, il faut que chaque chrétien soit rempli de l'Esprit. Et il dit... Pour qu'un chrétien soit rempli de l'Esprit, il faut qu'il considère que ça fait partie du plan du salut. Il faut qu'il considère que c'est normal qu'il soit rempli de l'Esprit. Il faut qu'il considère que c'est important d'être rempli de l'Esprit. Parce que si nous disons qu'être rempli de l'Esprit n'est pas important, c'est évident que nous n'allons pas chercher à l'être. Et donc on va se reposer. Et voilà. Pourquoi c'est important? Et on verra un petit peu aussi d'être rempli de l'Esprit notamment. C'est que nous avons une mission dans le monde. Nous ne sommes pas des gens pour vagabonder. Nous avons une mission dans le monde. Nous avons à faire des choses, nous avons à être quelque chose vis-à-vis du monde. Et notamment, cela nécessite que nous soyons, que l'Église soit remplie de l'Esprit. Pas seulement habitée par l'Esprit, mais conduite, dirigée, influencée par le Saint-Esprit. Ainsi donc, la réception... Et l'habitation de l'Esprit en nous dépend de notre repentance envers Dieu et de notre foi en Jésus-Christ. Donc vous savez que c'est ça la conversion. Je rappelle, la conversion, c'est deux choses. La foi en Jésus-Christ et la repentance envers Dieu. Je me repens de mes fautes, de mes péchés, et je me tourne vers Jésus-Christ, je crois en lui. Ça, la conversion, amène la réception et l'habitation de l'Esprit en nous. Nous devenons enfants de Dieu. Par contre, la plénitude de l'Esprit, elle dépend d'une vie de consécration à Christ. Elle dépend d'une vie de demeurance en Christ. L'habitation de l'Esprit dépend de notre conversion véritable, notre vraie conversion, alors que la manifestation de l'Esprit, on pourrait dire ça aussi, la plénitude de l'Esprit, c'est l'état dans lequel l'Esprit se manifeste au travers de nous. Parce que sinon, le Saint-Esprit est en nous, entre guillemets, dormant, c'est une sale expression, mais pour dire il est là, mais on ne le voit pas s'exprimer, alors que la plénitude de l'Esprit, c'est quand l'Esprit se manifeste au travers de nous. Quand au travers de nous, on peut voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Et on verra plein d'exemples les autres fois, comment on peut voir l'Esprit à l'œuvre. L'Esprit est présent chez tous les chrétiens, Mais la plénitude se manifeste seulement sous certaines conditions. Comme condition, on citera en passant la soif spirituelle, la disposition à s'abandonner à la conduite de l'esprit, les disciplines spirituelles, la prière, la lecture de la Bible, l'obéissance à la parole de Dieu. Ce sont toutes ces choses qui vont conditionner la façon avec laquelle le Saint-Esprit va prendre toute sa place en nous et va nous diriger, nous conduire. Une autre citation, bien à écouter. Hein. De toute façon, vous n'avez que ça à faire, vous êtes devant vos écrans. Il est vrai que le Saint-Esprit, c'est une citation de James Conkey, il est vrai que le Saint-Esprit est entré dans le cœur de chaque croyant et qu'il y habite et y demeurera toujours. Cependant, tout croyant est ainsi cohabité par la chair et l'esprit. Peut donc continuer à céder à la chair, au point de contrarier, étouffer et entraver toute manifestation de la plénitude de l'esprit qui est en lui. Le fait que même après la réception de l'esprit, il peut y avoir un empire du moi dans notre vie lorsque nous négligeons de nous livrer à l'esprit, explique parfaitement et suffisamment que la plénitude de l'esprit nous fait défaut. L'embarras ne vient pas de ce que l'esprit n'est pas entré en nous, mais de ce qu'il ne rencontre pas la consécration qui lui permettrait de manifester la plénitude. Explication. Il dit, cet auteur, que le Saint-Esprit est entré dans tous les croyants et qu'il y habite et qu'il y demeurera toujours. Mais que le croyant, il a en lui l'Esprit, le Saint-Esprit, mais la chair aussi. La chair aussi qui nous pousse à désobéir à Dieu, qui nous pousse à abandonner la lecture de la Bible, qui nous pousse à la prière. La chair, c'est ce qui nous pousse en dehors de ce que Dieu veut, pour faire simple. La chair, elle va toujours nous pousser à faire ce que Dieu ne veut pas. La chair va nous pousser à pécher, elle va nous pousser à convoiter, elle va nous pousser à ne pas aimer prier. La chair, elle nous pousse à tout ça. Et le Saint-Esprit, il nous pousse vers Dieu dans sa volonté, dans son plan. Et donc, même si le Saint-Esprit est en nous, la chair est toujours en nous. Enfin, en moi, parce que vous tous, vous n'avez plus la chair. Vous êtes déjà dans les hauteurs. Mais pour ceux qui ont la chair comme nous, comme moi, on a ce combat de la chair et de l'esprit en nous. On n'est pas dirigé en tout temps par le Saint-Esprit parce qu'au jour le jour, la chair continue à nous faire agir. Et donc, en fait, il dit que lorsque nous laissons de la place à la chair en nous, eh bien, nous étouffons, nous attristons, nous entravons la manifestation de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas se manifester parce que la chair prend trop de place. Alors que lorsque nous laissons la chair, que nous lui imposons de se taire, et que nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit peut se manifester au travers de nous. Il peut nous remplir, il peut prendre toute la place. Et vous irez tout à l'heure lire Galates chapitre 5, et vous verrez comment l'apôtre explique cette opposition entre la chair et l'esprit, et comment le croyant peut rester conduit par la chair plutôt que par l'esprit. La Bible nous dit en passant que Jésus avait reçu, dans Jean 3, 34, on ne va pas le lire, Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. C'est-à-dire Jésus était entièrement rempli de l'Esprit. C'est ce qui lui permettait de faire tout ce qu'il a fait, de guérir des malades. Il était rempli de l'Esprit. Il n'avait jamais péché, il n'a jamais péché, ce qui explique que la chair n'avait pas de place dans sa vie. Dans sa vie humaine, Jésus ne laissait pas de place à la chair, ce qui permettait au Saint-Esprit de se manifester complètement au travers de lui. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Nous allons maintenant, parce qu'on est censé faire des enseignements plus courts, comme vous êtes chez vous, parce que les gens ont dit, enfin les anciens et tout ça, ont dit, oui, mais il ne faut pas faire des cultes trop longs, parce que les gens sont chez eux, et tout ça, donc je suis censé faire plus court. Voilà. Donc je vais lire quelques versets, que nous n'allons pas lire. Donc, si vous avez devant vous un carnet, vous pourrez noter les versets, okay, et relire les versets chez vous. Ce sont des versets qui donnent des exemples de la plénitude. Ça va ? Donc, je vais lire très vite, et ceux qui veulent, vous notez et vous relirez. Luc 1, verset 15, il est écrit, en parlant de Jean-Baptiste, « car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. » Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit. Actes chapitre 4, verset 8. « Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. » Luc 1, verset 41. Il est écrit, « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. » Acte 7, verset 55. « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Acte 13, verset 9. « Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de l'Esprit, fixa les regards sur lui et lui dit. » Acte 13, verset 52. « Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. » Acte chapitre 2, verset 4. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » Et aussi, un verset important, qui est un verset qui concerne le Seigneur Jésus lui-même. Luc 4, verset 1. « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Alors ce verset est intéressant parce qu'il y a les deux éléments. Luc 4, 1. « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Donc celui qui est rempli de l'Esprit, il est conduit par l'Esprit. Il n'est pas conduit par lui-même, par sa chair, par sa volonté. Il est conduit parce que l'Esprit de Dieu en lui l'amène à faire. Ainsi donc, nous sommes tous, et comme les versets le montrent, la plénitude de l'Esprit, elle est présente dans la Bible. Et nous sommes tous aussi appelés à vivre la plénitude de l'Esprit. Faisons aussi une différence possible. Alors, comme c'est un enseignement, on peut aussi mettre des points d'interrogation. Il y a aussi une autre expression qui est parfois utilisée dans la Bible. C'est être revêtu de l'Esprit. D'accord ? Donc là, on vient de lire être rempli de l'Esprit, mais il y a aussi être revêtu de l'Esprit. Dans Luc 24, 49, il est dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc revêtus, c'est l'idée d'un manteau, c'est l'idée de quelque chose qui vient sur nous. Luc 4, 14, où il est dit, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandue dans tout le pays d'alentour. » Acte 10, verset 38, où il est dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » On a donc le fait d'être rempli de l'Esprit. Et puis, il y a les expressions « revêtu de l'Esprit »,« oint de l'Esprit qui font penser davantage aux personnes qui sont dans un ministère particulier. Donc Jésus, les apôtres et tout ça. Donc l'onction du Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit, c'est le revêtement que le Saint-Esprit donne pour le service, pour le témoignage. Donc, prenons quelqu'un qui doit évangéliser dans les rues, quelqu'un qui doit... toutes sortes de choses, qui doit aller dans un pays lointain pour annoncer l'Évangile. Il y a cette expression « revêtu de l'Esprit ». Donc quand la personne est envoyée pour une mission, un service particulier, un ministère particulier, elle est revêtue de l'Esprit. L'Esprit prend domination sur elle. Ainsi donc, on trouve trois grandes expressions, ou trois grandes caractéristiques. Être habité par l'Esprit, c'est tout le monde, nous sommes tous habités par l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, dans la vie quotidienne, ça doit être notre lot à tous. Et puis, être revêtu de l'Esprit, pour le service de Dieu, pour le témoignage. Rapidement aussi, on est à la fin, donner quelques exemples de moments où l'on parle de la plénitude de l'Esprit dans le Premier Testament. Parce que parfois, on croit que c'est juste dans le Nouveau Testament. Rapidement, encore une fois, si vous voulez, vous pouvez juste prendre des notes. Juge 6, 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Juge 3, verset 10. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Nombre 24, verset 2. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Juge, verset 11, 29. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté. Juge 13, verset 25. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Juge 4, verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Deux Chroniques 15, verset 1. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria. Deux Chroniques 20, 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Tant d'exemples qui nous montrent l'importance de la plénitude de l'esprit. Et le défi de la plénitude de l'esprit, c'est d'être constamment rempli de l'esprit. C'est la continuité. C'est facile d'être rempli de l'esprit pendant 10 minutes ou pendant quelques temps. On prie, on lit la Bible et alors on sent que l'esprit agit en nous. Mais le défi, c'est d'être rempli du Saint-Esprit sur la longueur, de tenir dans cette vie dirigée par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, la version parole vivante du texte d'Éphésiens 5, 18 dit « Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ce n'est pas en une fois, mais c'est constamment se laisser remplir par l'Esprit. En conclusion, quelques obstacles à la plénitude de l'Esprit. Qu'est-ce qui peut empêcher l'Esprit de se manifester au travers de nous? Qu'est-ce qui peut être un obstacle? Qu'est-ce qui peut entraver l'œuvre de l'Esprit en nous? Premièrement, le péché. Le péché entrave notre communion avec Dieu. Il coupe notre relation avec Dieu et il attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé en nous. Et parce qu'il est attristé en nous, il ne peut pas prendre toute sa place, il ne peut pas nous diriger, il ne peut pas nous conduire parce qu'il est attristé en nous. Le péché est un obstacle. Tout péché est un obstacle à la plénitude de l'Esprit. Un autre obstacle à la plénitude de l'Esprit, c'est le manque de consécration à Dieu. La plénitude de l'Esprit, elle demande de nous que nous nous mettions à part pour Dieu, que nous vivions avec Dieu tous les jours, dans sa parole, dans sa volonté, dans son plan, dans l'amour, dans la vérité, que nous vivions avec Dieu, que nous soyons mis à part pour Dieu. La plénitude de l'Esprit ne va pas se manifester chez quelqu'un qui est chrétien, mais qui vit comme ne connaissant pas Dieu, comme un chrétien. Non, elle va se manifester chez un chrétien qui se consacre à Dieu et à sa volonté. Un autre obstacle à la plénitude de l'Esprit, c'est le manque de soif spirituelle. C'est ce qu'on disait tantôt. Ne pas avoir de soif spirituelle, c'est le fait de se dire « Mais moi, je suis bien comme ça, je n'ai pas besoin que l'Esprit me remplisse, hein, il est à l'intérieur de moi, c'est bien comme ça. » On se contente de l'habitation de l'Esprit sans vouloir qu'il se manifeste dans nos vies. C'est un autre obstacle à la plénitude de l'Esprit. Un autre obstacle aussi, c'est l'intellectualisme, c'est-à-dire vouloir tout comprendre, tout saisir, tout maîtriser avec son intelligence. On a vu dans la Bible qu'il se passe quand l'Esprit agit des choses qu'on ne peut pas expliquer avec l'intelligence. Et on a vu dans l'enseignement sur le parler en langue notamment, ou sur la prophétie, que le Saint-Esprit, lorsqu'il agit, on ne sait pas le mettre dans la case de notre intelligence. Le parler en langue, c'est un truc fou, si on est honnête. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait, mais ils sont fous. Et donc, quand on est très intellectuel et qu'on veut que Dieu rentre dans nos cases, c'est un obstacle. Un autre obstacle, c'est le manque d'engagement dans l'Église. Parce que la plénitude de l'Esprit, elle va aussi nous servir pour le service des autres. Et donc, quand on ne s'intéresse pas au service de Dieu, eh bien, c'est sûr qu'on ne va pas forcément se sentir appelé à la plénitude de l'Esprit. Ce sont d'autres obstacles. Amen. Voici donc quelques éléments sur la plénitude de l'Esprit et nous continuerons plus tard en voyant d'autres choses selon le programme annoncé. Que Dieu nous remplisse tous de son esprit et que nous ayons à cœur les uns et les autres de chercher à être remplis de l'esprit. Nous allons maintenant chanter un chant sans surprise qui est « Viens Saint-Esprit », le 98 dans les recueils. Et c'est un chant pour lequel il faut faire un commentaire, évidemment. 98, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens remplir le temple que je suis. Alors, c'est un chant qu'on peut mal comprendre, puisqu'on vient de répéter pendant une heure que nous avons tous le Saint-Esprit en nous. D'accord ? Donc, quand on dit « viens Saint-Esprit », on n'est pas en train de dire « Saint-Esprit, tu n'es pas là, et donc viens ». Ce n'est pas ça qu'on dit. Quand on dit « viens Saint-Esprit », on appelle l'Esprit dans une dimension différente, qui est la dimension de la plénitude. Vous avez le chant devant vous, « viens Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis ». On ne dit pas juste « viens m'habiter », je sais que tu m'habites, mais viens remplir. Viens remplir. Et vous vous rappelez qu'au début de cet enseignement, on avait vu qu'il y avait trois expressions qui existaient. Le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit avec vous et le Saint-Esprit sur vous. Le Saint-Esprit est toujours en nous, mais nous pouvons aussi lui demander de venir nous remplir, de venir sur nous.